Bonsoir, bienvenue. Avec nous ce soir, Claude Corbeau, recteur de l'UQAM, détenteur d'un doctorat en philosophie de l'Université de Montréal. Claude Corbeau a d'abord enseigné la philosophie politique au Collège Sainte-Marie, puis l'histoire au département de sciences politiques de l'UQAM, et il était là au moment de la fondation de l'université. Par la suite, de nombreux postes à la direction académique de l'université et administrative. En fait, il y a très peu de postes que Claude Corbeau n'a pas occupés à l'UQAM. Vice-doyen, doyen, registraire, vice-recteur, recteur, et j'en oublie sûrement. Monsieur Corbeau est l'auteur de nombreux ouvrages traitant autant d'éducation que de politique. J'en ai compté une douzaine, et je suis sûr qu'il m'en manque, puisque ce soir, il m'a apporté celui qui est paru très récemment, « 15 jours au désert », des textes d'Alexis de Tocqueville, ainsi que « Course au lac Oneida », dont il a fait la préface. Donc, c'est tout chaud, et merci encore du cadeau. Il est également auteur d'une pièce de théâtre intitulée « Passion et désenchantement du ministre Lapalme », et on en fera une lecture publique montée par le TNM à l'occasion du 50e anniversaire du ministère de la Culture du Québec, dont, bien sûr, Lapalme fut le fondateur et le premier titulaire. En plus de plusieurs distinctions et mérites, M. Corbeau a reçu un doctorat honoris causa en droit de l'Université McGill et il est officier de l'Ordre national du mérite de France. Depuis janvier 2008, il est à nouveau recteur de l'Université du Québec à Montréal et il partage avec nous aujourd'hui son amour des livres. Mais avant, quelques questions pour camper votre bibliothèque et vos habitudes de lecture. Premièrement, à quoi ressemblent vos livres? Est-ce qu'ils sont impeccables? Est-ce qu'ils sont raturés? Est-ce qu'ils sont cornés? Est-ce qu'ils sont annotés?
Un mélange. Un certain nombre sont très annotés. D'autres sont dans un état de conservation que j'estime très bon. Et comme j'en achète parfois d'occasion, ben, je les prends dans l'état où ils sont. Alors, c'est un peu bigarré comme bibliothèque.
Êtes-vous attaché à vos livres? Est-ce que vous les prêtez volontiers?
Écoutez, je ne suis pas très prêteur de livres. D'ailleurs, vous savez, j'ai lu un jour l'histoire d'un bonhomme qui prête un livre auquel il tenait un ami et le livre lui revient tout sale. Alors, voyant cela, il va à la poissonnerie, il demande « Puis-je avoir un poisson un peu avancé? » Il l'achète, il l'emballe, il le retourne à son ami en disant « Vous avez oublié votre signet. » Alors, je les prête pas très souvent parce que souvent, ils reviennent pas. Est-ce que j'y suis attaché? Oui et non. C'est-à-dire que de temps en temps, je regarde ma bibliothèque et je me dis, j'ai pas besoin de tous ces livres-là. Faudrait que je me débarrasse d'une certaine partie d'entre eux. Mais ça, c'est compliqué parce que, dans le fond, on dit lesquels je vais sacrifier. Puis là, on en fait quoi quand on les sacrifie? Alors, il faut aller les porter. Les libraires d'occasion regardent ça avec parfois peu d'intérêt. Et donc, on vit avec des livres pour l'instant. Puis un jour, j'essaierai de m'en défaire.
Vous installez où pour lire?
Bien, ça donne que j'ai un fauteuil dans mon bureau à la maison que j'ai acquis au début des années 70. Alors, il porte bien l'empreinte de ma personne. C'est là que je lis. Et parfois, j'essaie de lire un peu au lit le soir pour être sûr de m'endormir. Alors, quelques minutes au moins là, avant que le sommeil ne m'envahisse complètement.
Est-ce que vous êtes amateur de beaux livres, de livres d'art?
Oui, mais modérément. Ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est plus la substance du livre. Son allure peut me retenir, mais je ne vais pas acheter des éditions de luxe pour le plaisir d'avoir des éditions de luxe. J'ai encore des vieux livres de poche de la fin des années 50, du début des années 60.
Livres d'art, livres d'artistes?
J'ai un faible pour les éditions québécoises des années 30, 40, 50. J'ai réussi au fil des ans à acheter la première édition de certains ouvrages qui ont marqué la littérature québécoise, mais je ne me décris pas comme étant un véritable collectionneur.
Vos habitudes de lecture, est-ce que vous êtes fidèle à certains auteurs dont vous lisez systématiquement chaque automne les nouvelles parutions, ou est-ce que vous butinez plutôt dans l'histoire?
Je pense que j'ai plus tendance à butiner et je ne suis pas très porté à lire les dernières publications. Peut-être que c'est un effet du vieillissement, puis on devient plus capricieux en vieillissant, on a moins de capacité de s'adapter aux choses neuves. J'ai tendance à fréquenter un certain nombre d'auteurs qui m'ont accompagné tout au long de ma vie.
On vous avait demandé de choisir une douzaine d'ouvrages et on m'a dit que ça avait été une torture pour vous de choisir.
Oui. Enfin, le seul moyen que j'ai pris pour y parvenir, c'était de me dire, imaginons que je pars en voyage avec une valise de livres, je prends quoi? Mais même ça, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est un univers immense que celui du livre et de la lecture. La littérature française, la littérature québécoise, la littérature occidentale sont immenses. Il y a beaucoup de choses, j'en ai lu beaucoup, mais je me rends compte que c'est très difficile de faire un choix. Vous m'y avez forcé, alors on va voir ce que ça donne ce soir.
Heureusement que vous n'aviez pas accès à un Sony Reader qui vous permettait de partir en voyage avec 200-300 livres.
En effet.
Écoutez, on va commencer, j'imagine, un moment de jeunesse. Le bon petit Henri de la comtesse de Ségur. Et vous avez une anecdote concernant cette édition-là du Bon Petit Henri que vous avez ici avec vous.
Effectivement, c'est un livre. Ça, c'est pas l'édition que j'avais quand j'étais enfant. Mais je l'ai eu enfant, puis là, il est disparu à un moment donné. Et je me souviens que quelque chose m'avait beaucoup frappé dans ce livre. Et je l'ai retrouvé après bien des années. Et ce qui m'avait frappé, quand je l'ai revu récemment, ça m'a comme procuré le même espèce de frémissement. Il y a dans le livre un personnage qui est un espèce de géant poilu, barbu, qui fait peur au petit Henri. Alors, donc, ça, c'est un souvenir qui remonte vraiment très loin dans mon enfance. Et je l'ai retrouvé, donc je l'ai acheté, mais je n'ai pas osé le présenter à mon petit-fils encore pour ne pas le terroriser, lui.
Dans la liste que vous nous avez fournie, on peut dire que vous avez commencé par le commencement parce que vous avez choisi l'Odyssée, un des deux poèmes homériques, qui sont les plus vieux textes de la littérature occidentale. Donc, on commence au début. J'ai été assez étonné que vous choisissiez l'Odyssée plutôt que l'Iliade, parce que je pense vous connaître. Et l'Odyssée, c'est un poème d'aventure, beaucoup d'action, alors que l'Iliade, c'est un texte qui est tout en nuances psychologiques. Alors, pourquoi l'Odyssée plutôt que l'Iliade?
Bien, la première chose que je vous dirais à ce sujet, c'est que ce sont des textes que j'ai lus pour la première fois il y a très longtemps, parce que je suis d'une des dernières cohortes de Québécois passés par l'ancien cours classique, comme vous-même d'ailleurs, et on nous a fait potasser ces textes très tôt dans notre cours classique. Mais j'ai eu plus de plaisir, et j'ai encore plus de plaisir à lire l'Odyssée, précisément parce que c'est un roman d'aventure, c'est une histoire extraordinaire d'un personnage qui s'appelle Ulysse, qui est un homme très rusé, très ratoureux, c'est lui qui a inventé le cheval de Troie, et qui, après la guerre de Troie, décide de retourner chez lui, mais ça lui prend 10 ans. Et là, il vit toute espèce d'aventure. Mes fils m'ont fait découvrir la guerre des étoiles, mais je me suis dit, ma foi, Homère avait déjà pensé à des choses extraordinaires. Alors, c'est la dimension de l'aventure, les péripéties de cette aventure. C'est aussi la figure d'Ulysse, qui est un homme à la fois avec des attachements profonds, des fidélités profondes. La meilleure preuve, c'est qu'il va passer 10 ans de sa vie à essayer de retourner à son royaume d'Ithaque, retrouver Pénélope, sa femme. Mais en même temps, il connaît toutes sortes d'aventures. Il passe 7 ans chez la nymphe Calypso. Il doit y trouver certains attraits. Il est très fasciné par la princesse Nausicaa, qu'on décrivait dans l'Iliade comme Nausicaa au sein parfumé. Alors, quand on lit ça à 13-14 ans, ça impressionne beaucoup. Bon, alors, il y a toutes sortes d'aventures. Il rencontre des personnages étonnants. Le cyclope Polyphème, qu'il réussit à éborgner de son seul œil, d'une façon particulièrement rusée. Il rencontre les lotophages, qui sont des gens qui vivent, dans le fond, drogués toute leur vie. Alors, il y a des situations d'aventure, de la quête de ses origines qui me paraissent former un ensemble assez fascinant. Je l'ai relu il y a quelques années. Ça, c'est le genre de choses que j'aimerais relire encore au moins une fois.
Vous avez aussi choisi, avançant tout doucement dans l'histoire, Antigone de Sophocle, écrit en 442-441 à peu près avant notre ère. Antigone, c'est la tragédie de Créon, qui est celui qui succède à Édipe sur le trône de Thèbes, et qui s'entête à imposer sa loi au point de provoquer le suicide de sa nièce et de son fils, et celui de son épouse. Donc, je comprends que cette pièce-là, sur la volonté d'un homme d'imposer sa loi, vous la lisez comme un professeur de sciences politiques.
Bien, je l'ai lu, entre autres, comme professeur de sciences politiques. Je l'ai fait lire, enfin, des extraits à mes étudiants dans un cours d'histoire de la pensée politique de l'Antiquité à la Renaissance. Et je voulais leur faire voir deux positions par rapport à la politique qui traversent toute notre histoire. Il y a la position d'Antigone. Qu'est-ce qu'elle fait, Antigone? Antigone décide que l'un de ses deux frères, qui est mort en se révoltant contre Créon, a droit au rite funéraire, c'est-à-dire qu'on le recouvre de terre. Et elle décide de lui donner cette sépulture, au moins symbolique, malgré que Créon eût interdit à tout citoyen de permettre ce genre de rite. Alors donc, Antigone, c'est la loi de la conscience, la loi naturelle, la loi sacrée, l'ordre moral qui préexiste à l'ordre politique. Et quand les gens voient ça, ben ils ont une sympathie, un parti pris pour Antigone, surtout que Créon va la faire mourir. Mais il faut aussi regarder le personnage de Créon. Il est le roi de Thèbes et il dit très explicitement, écoutez, quand on vit en société, il faut des lois. C'est ma job de roi de faire les lois. Une fois que je fais les lois, je peux pas laisser les gens désobéir impunément. Alors, c'est un affrontement qui traverse toute l'histoire, qu'on retrouve au 20e siècle, au 21e siècle, l'affrontement entre ceux qui se réclament d'un ordre moral transcendant, antérieur aux lois de l'État, puis ceux qui disent « c'est ma job de gouverner, il faut bien que je les fasse, les lois, il faut que je les applique ». Alors, c'est un beau conflit qui, je pense, est intelligible pleinement à notre époque.
Une citation de la pièce, évidemment traduite en français. Créon qui dit « il est impossible de juger un homme tant qu'il n'a pas fait ses preuves au gouvernement et à la garde des lois ». Ça s'applique à vous? Partagez ça.
Ben, moi, je la garde de l'université, si tant est que je l'ai, alors on pourra juger en temps et lieu. Mais certainement que Créon dit une chose, parce que les Grecs ont beaucoup réfléchi sur les rapports politiques. Créon mesure bien combien ce type d'expérience est majeur, révélateur de ce qu'est un être humain, sa capacité de composer avec des contraintes multiples.
Avant de se propulser dans le temps, vous avez choisi de faire deux clins d'œil rapides qui n'étaient pas au programme. Tout d'abord, les confessions de Saint-Augustin.
Ouais, alors il s'agit d'un vieux texte qui remonte à 395 de notre ère. C'est un texte que j'ai fait lire, avec quelques passages, à mes étudiants dans ce cours d'histoire de la pensée politique. Et c'est un texte qui, je pense, d'une certaine façon, secoue nos préjugés ou nos façons de voir. Ce que Saint-Augustin dit, c'est, il dit, vous savez, l'être humain, il est profondément corrompu. Il est mauvais, il est méchant. Et c'est pas une vision très positive de l'être humain. Et il en donne comme preuve dans son autobiographie où il raconte son expérience de vie. Il en donne comme preuve le jour où, avec une bande de copains adolescents, ils sont allés voler des poires. Pas parce qu'ils avaient faim, mais parce qu'ils savaient que c'était interdit, que c'était faire le mal. Alors, ça, c'est intéressant parce que j'ai pu constater que souvent, des étudiants qui m'arrivaient à l'université étaient d'une certaine façon rousseauistes, avaient le sentiment que l'être humain était naturellement bon, mais que la société l'avait corrompu. Alors, Saint-Augustin, il nous interpelle en disant « Hey, sortez de vos illusions ». Et peut-être que s'il avait vu le 20e siècle qui s'est déroulé, il aurait compris, il aurait dit « Ben voilà, j'ai raison ». Alors donc, c'est un miroir de l'être humain qui ne nous plaît pas, mais qui mérite peut-être d'être examiné. Et il y a chez lui une capacité de fouiller les mobiles les plus profonds du comportement humain qui anticipe, par exemple, sur ce que Freud va écrire à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Donc, c'est quelqu'un qui nous brasse, qui nous secoue et qui mérite d'être lu.
Et sur le même thème des mobiles de l'être humain, votre deuxième clin d'œil, Le prince de Machiavel.
Oui, parce que c'est un livre qui est un écrit de circonstance. Machiavel écrit Le prince alors qu'il est en exil intérieur, il n'a plus d'emploi, il écrit ce texte dans l'espoir de se trouver un emploi chez les nouveaux maîtres de Florence. Mais en même temps, c'est dans le fond une réflexion sans complaisance, tout à fait lucide sur un certain nombre d'enjeux, sur le fonctionnement des rapports politiques, sur les qualités ou les formes de comportement qui, à son avis, permettent d'être efficace en politique. Mais il ne faut pas oublier que Machiavel ne prêche pas le mal pour le mal. C'est aussi un patriote italien qui, au tournant du 16e siècle, rêve de voir l'unification de l'Italie. Et pour lui, ben l'unification de l'Italie, elle ne peut pas se faire par des vœux pieux. Il faut être capable de conquérir et d'utiliser efficacement le pouvoir politique. Et encore là, c'est un miroir qu'il dresse devant nous et il nous permet de voir que les rapports politiques comportent une part d'ombre, d'obscurité, de conflit, de méchanceté. Et la simple lecture de l'actualité nous permet de constater qu'il dit des choses absolument pertinentes.
Alors, vous avez choisi ensuite les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Quelqu'un donc, qui a consacré sa vie à la littérature et à la politique. Ça vous plaît, ce mélange des genres chez la même personne, littérature, politique?
Bien, écoutez, Chateaubriand, c'est quelqu'un qui a traversé une époque de changement très profond. Il est né sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, et là, il est passé à travers la Révolution française, l'Empire napoléonien, les restaurations successives. Il s'est presque rendu jusqu'à la Deuxième République française. Donc, il a vu un long moment d'histoire, un moment de transformation historique en profondeur. Il s'est passionné pour ça. Il était assez passionné pour lui-même, d'ailleurs, pour sculpter sa figure à travers ses mémoires, ce que beaucoup de mémorialistes cherchent à faire, plus ou moins consciemment. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il y a une espèce de fidélité durable à l'ancienne famille régnante française, les Bourbons, parce qu'il les a vus, dans le fond, exécutés à travers Louis XVI. Mais en même temps, il est conscient, et plus il vieillit, plus il devient conscient, que jamais plus on ne pourra restaurer l'Ancien Régime, que le monde change. Alors, à travers ses mémoires, à travers la mise en valeur de son propre rôle, il y a aussi une réflexion sur la transformation des sociétés, sur l'effet de l'histoire, sur la situation des êtres humains, sur le fait qu'il y a des changements majeurs qui font qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et en ce sens-là, j'ai souvent fait le parallèle en ce qui me concerne entre Chateaubriand et un autre aristocrate français du nom d'Alexis de Tocqueville, l'auteur de « La démocratie en Amérique », qui lui aussi est un aristocrate qui n'aime pas beaucoup la démocratie, mais il se dit « voilà, il y a un changement fondamental dans la société et il faut accepter ce changement, il faut s'y adapter parce qu'on ne peut pas revenir en arrière ».
Comme vous l'avez dit, les mémoires de Toton couvrent plusieurs des époques importantes de l'histoire de France. Est-ce qu'il y a une de ces époques-là qui vous a davantage accroché, qui vous a davantage intéressé?
Écoutez, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, c'est le genre de lecture qu'on entame quand on est prêt à y passer un certain temps, parce que c'est pas loin de 3000 pages. Ça couvre donc de la fin des années 1775 à peu près jusqu'aux années 1840. Il y a dans cet ouvrage beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Il y a en particulier le rapport d'amour-haine entre Napoléon Bonaparte et Chateaubriand lui-même. Napoléon avait, semble-t-il, un faible pour Chateaubriand au sens où il a voulu le voir élu à l'Académie française, mais Chateaubriand, pour des raisons politiques, a rompu avec Napoléon, il l'a critiqué. Et donc, ça, c'est un passage extrêmement intéressant de le voir s'instituer en opposant, en critique de quelqu'un dont, pour lequel il y avait aussi de l'admiration, puisque l'œuvre de Napoléon, pour les gens de cette époque-là, était quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, ça, c'est un moment intéressant. Mais il y a aussi la narration de ses propres aventures, aussi bien au début de sa vie, quand, par exemple, il vient se promener aux États-Unis. Il prétend avoir rencontré le président Washington, mais ça n'a jamais été vraiment confirmé. Ses méditations sur les grands espaces du Nouveau Monde, une vieille fascination des Européens. En même temps, la narration de ses activités comme diplomate, il est ambassadeur à Londres, il est ambassadeur à Berlin, il est ambassadeur en Espagne et en Italie. Donc, c'est un survol d'une période très riche d'histoire et d'une vie très riche, d'une vie où l'écriture est une composante essentielle de l'expérience de l'individu.
Et donc, on quitte cette somme-là pour aller chez Proust, notre petite somme, à la recherche du temps
perdu.
Là, je
me rends compte que mon intimité littéraire est en train de voler en éclats. Hein, moi, je vais passer les uns après les autres. Oui, Proust.
Mais effectivement, Proust, et ce qui est bizarre, c'est que vous êtes le premier de mes invités à inviter Proust dans la conversation. Pourquoi ce choix-là?
J'imagine que ça trahit mon âge.
Il est décédé en 1927.
Oui. Alors, Proust. Proust est un auteur, un écrivain qui nous recompose un monde qu'il a vécu, un monde où se côtoie, ce qui n'est pas nécessairement très présent dans notre propre expérience de ce côté-ci de l'Atlantique, un monde où se côtoient des classes sociales très démarquées, une aristocratie qui est en fin de règne, une bourgeoisie. C'est quelqu'un qui évoque des personnages absolument extraordinaires dont on garde le souvenir à jamais. Je pense, par exemple, à Charles Swann, qui est un bourgeois, un intellectuel, un esthète, un historien d'art, qui se passionne pour une demi-mondaine, pour employer l'expression de l'époque, une femme dont il dira plus tard, j'ai consacré 20 ans de ma vie et de passion à une femme qui n'était pas vraiment mon genre. Alors, il y a chez Proust l'évocation d'un monde disparu, de groupes sociaux, beaucoup plus démarqués que ce qu'on a dans notre propre expérience ici. Il y a aussi chez Proust une patience infinie pour analyser l'amour sous toutes ses formes, les sentiments qui gravitent autour de cette expérience fondamentale de la vie. Il y a chez lui la capacité de réfléchir sur le temps, comment le temps est quelque chose de très subjectif et d'objectif à la fois. Il y a chez lui des évocations qui sont très frappantes, par exemple la célèbre évocation de la Madeleine, alors qu'il goûte cette pâtisserie qui s'appelle une Madeleine, et ça lui fait revenir un ensemble de souvenirs qu'il croyait avoir été enfouis et perdus à jamais. Alors donc, il y a beaucoup de richesses chez Proust, en même temps que c'est pas toujours très facile à lire. On se garoche pas dans Proust en disant « je le passe d'un travers à l'autre », c'est 3000 pages. Il y a des passages qui sont plus difficiles, qui sont plus réflexifs, plus méditatifs. Et il est intéressant d'observer que la première fois qu'on a publié Proust en livre de poche, vous savez, en France, vers 1955-56, est apparu le livre de poche. Moi, j'en ai des souvenirs absolument passionnants, parce qu'un livre de poche, ça se vendait, si je me souviens bien, à l'époque, 50 sous, un paquet de cigarettes, 36 sous, 40 sous. Alors, ça vous donne une idée des proportions. Le livre de poche, c'était absolument extraordinaire en nous donnant accès à toutes sortes de choses. Bon, bref, la première partie de l'œuvre de Proust qui a été publiée dans le livre de poche, c'est ce qui s'appelle « Un amour de Swann », qui revêt la forme d'un roman assez traditionnel. Et donc, ça, c'est une façon d'entrer dans l'œuvre de Proust. Mais si on a la patience de le suivre, il y a vraiment des longues phrases aussi chez Proust, si on a la patience de le suivre, c'est là qu'on découvre sa capacité d'évoquer dans toute leur profondeur et leur complexité les sentiments humains et d'évoquer aussi des personnages qui sont extraordinaires, qui sont en dehors du commun. Alors donc, c'est une lecture qui ne se fait pas à la va-vite, mais si on s'y adonne de façon résolue, d'abord, avec un certain temps, on finit par passer à travers les 3000 pages, mais on en retire, je pense, de très grandes richesses. Et ça, c'est le genre... J'ai fait à peu près deux fois le tour de la recherche du temps perdu. J'espère avoir le temps de faire une troisième fois le tour dans quelques années encore.
Savez-vous qu'il y a un mouvement qui s'appelle le « slow reading » ? Alors, il y a le slow food.
Le slow reading. Bien, surtout quand on commence à 10h15 le soir après une longue journée, on lit 3 pages, puis là, les yeux tombent. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on s'est endormi. Puis le livre est toujours là. Là, on éteint la lumière, puis on passe. On garde le slow reading pour le soir suivant.
Parce qu'il y a des gens qui ont analysé les habitudes de lecture sur Internet, parce qu'on est tous beaucoup là-dedans. Et le fait d'être constamment projeté d'un document à l'autre. L'Internet, ça nous invite à aller ailleurs, à aller voir ailleurs. Et donc, les gens se demandent si notre capacité, justement, de lire des œuvres comme à la recherche du temps perdu, on va la perdre, c'est le cas de le dire, par le fait que notre attention soit diminuée, notre capacité de se concentrer longtemps sur le même texte soit diminué par une pratique au quotidien de textes sur l'Internet par hyperlien qui nous projette constamment ailleurs.
Mais oui, sans doute, et la capacité d'attention est peut-être pas ce qu'elle était, encore qu'il ne faut pas s'imaginer que quand nous étions adolescents, nous avions une si grande capacité d'attention. Mais il me semble que l'intérêt intrinsèque d'une lecture nous captive, et ça va nous retenir et ça va nous donner le goût de continuer. Il suffit de tomber sur une œuvre qui nous passionne. Et en ce sens-là, fortunées sont les personnes qui peuvent découvrir des œuvres dont elles seront passionnées et qu'elles auront le goût de lire jusqu'au bout, et parfois de relire. Il y a toutes sortes d'auteurs comme ça. Et ce que je constate, enfin, c'est une observation absolument banale, mais tout à fait pertinente, c'est que au fur et à mesure que les moyens technologiques évoluent, notamment les merveilles à travers l'ordinateur et l'Internet, la quantité de livres papier qui se publient continue à s'accroître. Et donc, c'est pas des choses antithétiques. Et moi, je me dis, effectivement, ça pourrait simplifier les bibliothèques d'avoir accès, ça simplifierait les bibliothèques d'avoir accès à des œuvres sous format électronique, ça qu'on ne fréquente pas quotidiennement, ça sauve de l'espace.
L'autre ouvrage que vous avez choisi, Le Guépard, est beaucoup aussi sur cette question-là du passage d'un régime politique ou d'un système politique à un autre. C'est donc l'ouvrage de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. C'est un roman qui se passe en Sicile. Oui. Et justement au moment de la réunification. Et c'est un livre qui vous a beaucoup fasciné.
Bien, c'est un livre qui est fascinant, d'abord parce que c'est un livre qui a été écrit à la toute fin de sa vie par un aristocrate sicilien plutôt désargenté qui n'avait vraiment pas fait grand-chose de sa vie, si ce n'est donner des cours privés de littérature sur la littérature du 19e siècle, particulièrement la littérature française du 19e siècle. Un personnage qui s'appelle donc Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Et vers 1954, l'un de ses cousins qui avait publié quelques poèmes, a obtenu un prix littéraire. Et ça a comme secoué Tomasi di Lampedusa, et puis il s'est dit, moi aussi, je peux écrire. Et il a résolu d'écrire à partir de la vie de son arrière-grand-père, un aristocrate sicilien né vers 1820, qui donc assiste, le roman se déroule pour l'essentiel entre 1860 et 1862, qui assiste à l'invasion de la Sicile par les troupes de Garibaldi, qui se situe donc dans un processus de l'unification nationale italienne. La France, la Grande-Bretagne s'étaient unifiées comme nation au 15e, 16e siècle. L'Italie s'est attendue la deuxième moitié du 19e siècle, comme du reste l'Allemagne. Alors, cet aristocrate est un personnage, c'est un personnage qui est intellectuellement riche. Il fait des mathématiques, il fait de l'astrologie, il règne sur sa famille comme un véritable pater familias, et il observe la transformation du monde. Et il sait que sa classe sociale est condamnée. Il sait que les choses vont changer. Il accepte ça avec un mélange de scepticisme et de fatalisme. Mais en même temps, il a un neveu qui est lui-même le rejeton d'une longue lignée d'aristocrates siciliens, évidemment ruiné financièrement. Et plutôt que de faciliter le mariage de ce neveu avec l'une de ses trois filles, le prince Salina décide que ce neveu qui a un bel avenir politique ou diplomatique devant lui, mais qui n'a pas d'argent, doit marier une femme qui lui apportera une dot importante. Et il marie son neveu au maire du village où il passe son été. Mais ce maire de village, c'est quelqu'un qui est parti de rien dans la vie, qui s'est enrichi et qui n'a d'autre type de noblesse que sa richesse. Et donc, on voit le passage d'un ancien ordre social. C'est un peu la même chose que l'on voit chez Proust quand, dans les derniers tomes de La recherche du temps perdu, nous assistons au mariage entre un personnage qui s'appelle Gilberte Swann, qui est la fille de Charles Swann, et d'Odette de Crécy, la demi-mondaine, avec un rejeton de l'aristocratie française. Donc, c'est l'effet du passage du temps, la transformation des sociétés, la transformation des rapports sociaux, et le fait qu'à un moment donné, comme dit le personnage de Tancrède, si on veut que rien ne change, il faut que tout change. Une des phrases étonnante de ce roman. Et en plus, la dernière remarque que je ferai à propos du roman de Tomasi di Lampedusa, c'est qu'il a été écrit très rapidement dans les dernières années de vie de son auteur, et il a été publié de façon posthume, après qu'au moins deux maisons d'édition importantes italiennes l'eurent refusé. Et le livre a connu un succès énorme en Europe et ailleurs. D'ailleurs, pour ceux qui veulent entrer par une voie plus facile, on peut regarder le film que le réalisateur italien Luchino Visconti a tiré du Guépard, qui est assez fidèle. C'est peut-être une façon d'entrer dans un roman qui est très riche et qui est une réflexion aussi sur l'effet du passage du temps sur la condition des êtres humains.
Albert Cohen. On a parlé de slow reading. Dans son cas, on peut parler de slow writing, si vous me passez l'anglicisme. Il a mis 30 ans à écrire, réécrire l'ouvrage que vous avez choisi, Belle du Seigneur. Il a fini par accepter qu'il soit publié en 68. Et au moment de la publication, on a même amputé 300 pages au livre. Et c'est bien parce que ça a été publié l'année suivante sous le titre « Les valeureux ». Donc, on a eu deux livres, pas pour le prix d'un, mais pour l'effort de l'un. Pour vous, c'est un livre terrifiant.
Bien, c'est un livre terrifiant, entendons-nous. Là, c'est pas Edgar Allan Poe.
Ou La Comtesse de Ségur.
Ou La Comtesse de Ségur, en effet. C'est un livre terrifiant parce que c'est une histoire d'amour où on voit deux amants en situation, disons, plutôt irrégulière, qui progressivement s'isolent de toute la société pour vivre d'une façon très fusionnelle leur amour. Et ils sont tellement pris l'un dans l'autre qu'à un moment donné, ils se dévorent littéralement et ils se suicident. C'est comme ça que le roman finit. Alors, quand on lit ça, on se dit, est-il Dieu possible que l'amour puisse nous conduire à ce genre de situation? C'est sans doute excessif. Mais en même temps, il y a chez Cohen une écriture très fine. Évidemment, il a mis 30 ans à l'écrire, alors il a pu peaufiner en cours de route, c'est ce que beaucoup ne font pas. Une écriture très fine, une capacité aussi d'ironiser à propos de milieux comme les milieux diplomatiques de l'entre-deux-guerres, la Société des Nations. Ce mélange du comique et du tragique avec la montée de thèmes, la présence de thèmes qui sont en résonance avec l'époque des années 30 où il est écrit, c'est-à-dire l'antisémitisme, puisque son personnage principal est un juif, Solal. Alors, c'est un roman qui est énorme, qui est gros, qui est long, qui se lit difficilement à la fin parce que c'est un texte continu, sans ponctuation, sans paragraphe. Mais en même temps, on est saisi comme devant le gouffre en voyant jusqu'où l'amour peut conduire deux êtres. Et heureusement, dans nos vies quotidiennes, on vit ça de façon plus raisonnable, plus pacifique. Mais ça décrit une situation limite de l'expérience humaine. Et en ce sens-là, ça nous tend encore une fois un miroir pour comprendre notre propre expérience.
Là, vous avez triché un peu, mais depuis le début, vous trichez, et puis on vous a laissé faire, puisque on vous a demandé 12 livres, mais là, vous avez choisi « À la recherche du temps perdu »,« Les mémoires du tonton ». Alors, avec Michel Tremblay, vous trichez aussi,
oui,
parce que vous n'avez pas choisi une pièce, un livre, vous avez choisi tout le théâtre. La première de ces pièces-là, évidemment, c'est « Les belles-sœurs ». Et vous avez l'âge, pour être impoli, mais vous avez l'âge d'avoir été contemporain de la création des belles-sœurs. Est-ce que vous gardez un souvenir du scandale que ça avait créé?
J'ai l'impression d'entendre encore des échos de gens offusqués qui, devant la création des belles-sœurs, qui utilisent une langue très très québécoise, très verte, très joile, ont comme dit poussé les hauts cris en se disant que ça n'avait pas de bon sens d'utiliser une telle langue et de représenter de telles personnes, de tels personnages, de telles situations. Mais, et ça survient, vous vous en souvenez sans doute, aussi à la fin des années 60, au moment où le Québec est engagé dans un énorme effort pour refaire son système d'éducation. Peu de temps après, Pierre-Elliott Trudeau avait dit que l'on parlait un « lousy French », un français pouilleux. Certains des écrivains cherchaient beaucoup à respecter la norme du français international. La revue Parti pris avait ouvert le débat sur l'usage du « joual » en littérature. Alors, Tremblay, lui, met en scène des personnages qui n'ont pas fait de longues études et qui ne parlent pas un français d'académicien. Donc, cela a fait comme scandale, mais au-delà du scandale linguistique, il y avait la représentation d'une réalité humaine absolument authentique. Et donc, l'ouverture, le regard porté sur des situations humaines, une partie de la condition humaine québécoise qui était très authentique. Et ce qui est fascinant avec Les belles-sœurs en particulier, c'est pas nécessairement la pièce que moi j'aime le plus dans l'univers de Tremblay. Il y en a d'autres que je trouve plus attachantes, en tout cas qui me parlent plus à moi. Mais ce qui est fascinant dans le cas des belles-sœurs, c'est que c'est une pièce qui est très profondément enracinée dans le sol montréalais des années 60, mais en même temps, on l'a joué en dehors de Montréal. On l'a joué à Montréal en italien, je l'ai vu entendu en italien, on l'a joué en yiddish. On l'a joué en Écosse, on l'a joué un peu partout, on l'a joué au Japon. Alors donc, il y a quelque chose de profondément authentique dans cette pièce qui nous rend beaucoup plus indulgents envers la langue par opposition aux gens qui ont poussé les hauts cris en 1968 lors de sa création.
Il a choisi aussi beaucoup de nous faire découvrir l'identité québécoise en explorant les marginaux.
Oui, tout à fait. Il explore des marginaux. Par exemple, quand on pense à une pièce comme Hosanna, c'en est un exemple. Mais il explore aussi beaucoup les relations familiales, le nœud familial. Et quand on parlait tantôt du monde de la tragédie grecque, ça nous met en présence de familles dysfonctionnelles, n'est-ce pas? Quand l'Orestie d'Eschyle, Clytemnestre assassine son mari, Agamemnon, au retour de la guerre de Troie, puis le fils de cette union, Oreste, tue sa mère. C'est vraiment pas très joli. Donc, Tremblay, lui, nous met en présence aussi de familles québécoises qui sont très dysfonctionnelles. Il a l'art de révéler sur scène ces terribles secrets de famille qu'on n'ose pas dire. Il y en a dans toutes les familles, n'est-ce pas? Alors, donc, lui, il les met crûment sur la scène. Et ça se passe pas toujours dans des milieux économiquement défavorisés. Ça se passe dans différents types de milieux. Alors, je trouve ça fascinant de voir qu'il est capable d'explorer à la marge, il est aussi capable d'explorer nos bonnes familles québécoises, dans ce qu'elles ont de plus typique, mais aussi de plus universel. Et ça, écoutez, je devrais peut-être pas dire ça, parce que c'est le genre de chose qui peut porter malheur, mais pour moi, s'il y a un écrivain québécois qui a l'étoffe d'un prix Nobel, compte tenu de ce qu'est le prix Nobel, parce que le prix Nobel, il est donné selon différents canons, qui ne sont pas nécessairement ceux d'autres prix littéraires, mais s'il y a un écrivain québécois qui a l'étoffe d'un prix Nobel, je pense que c'est Tremblay. Et moi, je me dis, voilà quelqu'un qui apporte un langage, un propos, un discours, une façon de faire du théâtre qui est vraiment novatrice au Québec. Il y a eu des antécédents à Tremblay au Québec. Je pense à Marcel Dubé, je pense à Gratien Gélinas. Mais on sent qu'avec Tremblay, la dramaturgie québécoise franchit une étape décisive. Et quand on remonte ces pièces, on se rend compte qu'elles sont pour la plupart capables de nous rejoindre même 20, 30, 40 ans après leur création.
Et c'est pas pour rien que vous avez choisi le volume de son théâtre. Son théâtre vous plaît plus que l'œuvre romanesque.
Moi, je ne suis pas un spécialiste de littérature et je vais émettre des opinions que les spécialistes de littérature vont dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. En tout cas, c'est mes opinions. J'ai lu pas mal tout Tremblay. Les chroniques du plateau Mont-Royal sont très, très touchantes. Il y a également des écrits sur son expérience personnelle, la découverte du théâtre, la découverte du cinéma, qui se lisent très bien. Mais mon impression, quand je réfléchis à l'œuvre de Michel Tremblay, que je connais comme un simple lecteur, encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un littéraire, je suis un lecteur. Mais quand je regarde l'œuvre de Tremblay, je me dis que ce qu'il y a de plus fort, de plus riche chez lui, de plus saisissant chez lui, c'est probablement son théâtre.
Et vous-même, c'est une forme qui vous attire, parce que vous avez peu écrit d'œuvres littéraires, vous avez surtout commis des textes de sciences politiques et d'histoire, mais ce que vous avez écrit, c'est une pièce de théâtre.
Oui, alors je l'ai écrit, je ne peux pas vraiment dire, c'est un péché de jeunesse, mais puis je l'ai réécrit trois fois plutôt qu'une. Ben oui, j'ai fait ça. Et ce qui m'a toujours fasciné dans l'écriture théâtrale, puis c'est une vieille forme littéraire, ça remonte à 2500 ans, mais la convergence d'un texte, d'une équipe d'interprétation et de production, puis d'un public simultanément au même endroit, je trouve ça très fascinant comme expérience. J'ai assisté à la lecture de la seule pièce que j'ai vraiment écrite et qui a été publiée. J'ai trouvé que c'est une expérience absolument fascinante, puis on va la revivre ici. Et donc, c'est une forme. Moi, j'envie quelqu'un comme Tremblay d'avoir pu réussir à écrire un théâtre aussi riche, aussi vrai, aussi profond, et qui franchit les frontières. Alors, saluons-le.
Alors, dans cette veine québécoise, vous avez aussi retenu L'homme rapaillé de Gaston Miron. Et lui aussi, un peu comme Albert Cohen, dont on parlait tout à l'heure, il a peaufiné constamment sa poésie. Le recueil L'homme rapaillé, d'ailleurs, a été réédité et publié sept fois, mais dans sept versions différentes. J'ai été surpris d'apprendre, en préparant notre entrevue, que L'homme rapaillé est l'œuvre québécoise qui est la plus lue de toute la francophonie. Ça vous étonne?
Oui et non. Oui, dans la mesure où c'est pas fréquent qu'une œuvre littéraire québécoise, Tremblay se situe dans ce cas-là, mais c'est pas fréquent qu'une œuvre littéraire québécoise franchisse tellement les frontières, pénètre tellement en particulier la francophonie, comme c'est le cas de l'œuvre de Miron. Donc, en ce sens-là, c'est toujours un peu étonnant, parce que nous sommes, comme on l'a déjà dit, on a le malheur de partager la même langue que la France, alors ça nous fait comme ombrage. Bien que pour moi, la littérature québécoise soit une littérature très riche et parfaitement respectable dans laquelle j'ai plaisir à me promener. Mais en même temps, L'homme rapaillé, c'est une œuvre poétique qui exploite des thèmes très très universels malgré son enracinement profond au Québec. Bon, il y a le thème de l'amour, la marche à l'amour, quelque chose de merveilleux. Mais il y a aussi des enjeux comme l'identité, qui sommes-nous, qui suis-je, comment nous situons-nous par rapport au monde. Alors donc, c'est une œuvre qui est potentiellement parlante en dehors des frontières du Québec et qui l'a été. Et en même temps, moi, je trouve ça fascinant de voir comment Miron a eu la passion de l'écriture achevée au point d'abord d'être extrêmement réticent à publier ses poèmes. Il a vraiment fallu qu'on les lui arrache littéralement et publier ça en pièces détachées ici et là. Et dans le fond, a-t-il jamais été satisfait de ce recueil qui est L'homme rapaillé, puisqu'il l'a retravaillé à de multiples, retravaillé les poèmes à de multiples reprises? C'est extraordinaire de voir un écrivain attaché tant d'importance à trouver le vers, le poème auquel il sent n'avoir plus jamais rien à ajouter. Alors, c'est une quête très impressionnante d'une espèce de perfection qui est évidemment inatteignable, mais ça n'empêche pas de la rechercher. Et en plus de ça, en ce qui me concerne personnellement, au risque de passer pour un peu béotien, je ne suis pas très lecteur de poésie. Mais quand je regarde la poésie de Miron, elle m'attire parce que on peut au moins dire que ce n'est pas une poésie hermétique. T'sais, on peut rentrer dans Miron. Il faut faire attention parce qu'il y a plus d'épaisseur de sens, de richesse de sens qu'il n'y paraît au prime abord. Mais disons, c'est une poésie dans laquelle on entre, par laquelle on se laisse prendre, on a le goût d'aller plus loin et on ne se sent pas humilié parce qu'on ne connaît pas les mots rares et précieux qui sont choisis, ou on ne se sent pas déboussolé parce qu'il n'y a pas de ponctuation, ou les vers sont tout fragmentés. Alors donc, en ce sens-là, c'est une poésie dans laquelle on peut rentrer peut-être plus aisément que d'autres, en sachant par ailleurs c'est une poésie qui a ses profondeurs et ses épaisseurs de signification. Et moi, je me dis, voilà une œuvre qui nous parle et qui parle à beaucoup de gens. Et peut-être que Miron va devenir un classique dans la définition que lui-même donnait d'un classique, c'est-à-dire un contemporain de toutes les époques.
C'est un cliché de dire que L'homme rapaillé, c'est une œuvre consacrée à la condition de l'homme québécois. Vous-même, vous avez publié en 92 un recueil dont le titre est « Mon appartenance » et le sous-titre était « Essai sur la condition québécoise ». Donc, vous aussi, vous êtes penché, vous êtes interrogé sur ce qu'était cette condition québécoise.
Oui, dans la mesure où il se trouve que mon père était un fils d'immigrants italiens né à Montréal, et ça j'en parle dans mon appartenance. Mon père était un fils d'immigrants italiens, mais né à Montréal, qui lui-même se définissait comme italien, malgré qu'il ait vécu toute sa vie au Québec, dans une profession très québécoise, celle du notariat, qu'il ait été scolarisé en français. Alors donc, mon père avait cette identité à laquelle il tenait beaucoup, et ma mère était ce qu'on appelle une CFC, une Canadienne-Française catholique. Elle s'appelait Mignonne Côté de son nom de famille, de son nom de jeune fille. Donc, c'est vraiment très québécois. Et il s'adonne que j'ai vécu dans un milieu anglophone. Donc, j'ai vécu ce choc d'identité multiple. Et quand j'ai fait mon école primaire, dans une école qui accueillait massivement des étudiants, des élèves de la communauté italienne, de l'immigration italienne. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup d'Italiens. C'était pas compliqué d'être Italien dans ce milieu-là. Mais quand je suis arrivé au cours classique à Brébeuf, collège canadien-français catholique à 100%, je m'appelais Corbeau. Alors, il pensait à l'oiseau. Puis après ça, il voyait, c'est O. C'est quoi ce nom-là? Je m'appelle Italien. Alors donc, moi, j'ai vécu ballotté entre un père et une mère qui n'avaient pas la même perception de leur identité. C'est ce qui m'a sans doute amené à réfléchir sur cet enjeu, compte tenu aussi de la trajectoire qu'a parcouru le Québec depuis la fin des années 50 en termes d'identification, d'affirmation, de positionnement. Alors, peut-être que dans le fond, ce que j'aime beaucoup chez Gaston Miron, c'est qu'il réfléchit sur ces enjeux-là. Et on a publié, au-delà de L'homme rapaillé, un certain nombre de textes avec lesquels on peut être plus ou moins d'accord, mais qui constituent une réflexion très, très, très lucide sur la condition québécoise.
D'autres mémoires? Charles de Gaulle, Mémoires de guerre. Trois tomes, encore une fois, triché un peu. 12 livres, mais en 48 tomes. Trois tomes qui racontent la guerre du général de Gaulle. Des tranches de 2 années. Qu'est-ce que vous retenez du général?
Je pourrais vous dire, vive le Québec libre. Ça, on le retient, on va le retenir longtemps. Le de Gaulle dont vous parlez, c'est celui de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous m'avez parlé de tantôt de Machiavel et le prince de Machiavel. Pour moi, de Gaulle, c'est comme une incarnation contemporaine du prince de Machiavel, c'est-à-dire un personnage qui, d'abord, sait saisir les occasions que l'histoire ou que le destin lui offre. En même temps, c'est quelqu'un qui a comme une idée fixe, mais il la poursuit avec une détermination, une volonté vraiment d'acier incassable, un orgueil monumental, mais en même temps un courage absolument hors du commun. Écoutez, replaçons-nous en 1940, la France s'effondre, les Allemands dominent l'Europe. C'est le grand maréchal Pétain, le héros de la Première Guerre mondiale, qui est au pouvoir en France avec la bénédiction des Allemands. Et voici que ce général à 2 étoiles décide que lui, c'est la France. Et il part avec la France, il l'installe en Grande-Bretagne, puis il se prétend le porteur de la légitimité française. Ça demande un maudit culot, mais en même temps, il avait raison. Alors, c'est un personnage qui écrit ses mémoires. Il les écrit avec une langue française très recherchée. Il les écrit sans complaisance. Il fait pas des petites confidences. Il est très loin de ça. Et il y a chez lui une volonté de sculpter sa propre image qui est assez fascinante à observer. Et alors, le personnage que nous, on a connu ici, c'est quand même quelqu'un qui était à la fin de son expérience politique. Mais vous savez, de Gaulle faisait rire de lui dans les années 60, quand il parlait de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, puis il voyait l'implosion de l'Union soviétique et des pays de l'Est. Les gens rigolaient en disant « il vieillit mal ». D'ailleurs, lui-même disait « la vieillesse, quel naufrage hein, », sont ce genre de choses à laquelle on va méditer dans les années à venir. Mais par ailleurs, c'est un homme particulièrement lucide, mais il y a chez lui cette volonté de réaliser son rêve. Et il y a quelque chose de très touchant, enfin, qui révélateur du personnage qui a connu l'humiliation de son pays. C'est Alain Perfit, dans un ouvrage qui s'appelle « C'était de Gaulle » qui le raconte. De Gaulle assiste à l'explosion de la première bombe atomique française, et il a comme le regard voilé de larmes, comme si, au milieu des années 60, la très profonde humiliation que son pays avait connue pendant l'entre-deux-guerres et pendant la Deuxième Guerre mondiale était absolument nettoyée. Alors, c'est une image de patriotisme très profond, viscéral. En même temps, c'est quelqu'un qui a plongé dans l'action, s'est saisi du pouvoir politique et l'a utilisé de façon parfois brutale. Alors, dans le fond, le prince de Machiavel a des incarnations dans l'histoire, de Gaulle en est une, et pour moi, c'est des rapprochements qui sont intéressants, d'autant plus que ce dont rêvait Machiavel, c'était d'unifier l'Italie puis d'en sortir les barbares, et le rêve de Gaulle, ça a été de sortir la France de sa misère, et il l'a fait 2 fois dans sa vie, ce qui est pas fréquent. C'est un personnage qu'il vaut la peine de lire, ne serait-ce que pour mesurer la capacité d'un homme de faire face à une adversité qui décourageraient la plupart d'entre nous. Il y a comme une leçon. Alors, nous, on n'est pas des Français, on n'a pas vécu avec De Gaulle comme président, on est à une certaine distance de ça. Et je pense qu'on peut lire, à travers ses mémoires, une image d'un leadership politique et militaire assez exceptionnel.
Avec des qualités littéraires, certainement.
Et avec des qualités littéraires, on a même publié les mémoires de Gaulle dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade, n'est-ce pas, qui est comme la canonisation des écrivains en France. Et on l'a décrit comme étant non pas le dernier écrivain français, mais le dernier écrivain de la France. Nuance intéressante.
Vous avez choisi « La détresse et l'enchantement » de Gabriel Leroy, son autobiographie. Un choix que, peut-être vous ne le saviez pas, que vous partagez avec Michel Rivard. Michel ouais. Rivard, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ici, avait retenu ce titre-là. Malgré ce choix-là, de deux de mes invités, c'est un livre qui n'est pas un des titres les mieux connus de Gabriel Leroy. Il est paru une année après sa mort. Et vous, qu'est-ce que vous en avez retenu?
Écoutez, Gabriel Leroy, c'est un personnage particulièrement intéressant parce que c'est quelqu'un qui est né dans la diaspora québécoise ou canadienne-française, donc dans l'Ouest, qui a vécu dans l'Ouest. Et c'est une femme qui, dans les années 30, se met en fait de faire du théâtre, ce qui n'était pas nécessairement très bien vu, qui s'en va étudier le théâtre en Grande-Bretagne. Qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, revient ici, fait du journalisme, se promène en pantalon, ce qui n'est pas nécessairement fréquent à l'époque, et donc qui écrit une œuvre littéraire qui va être très, très bien reçue. C'est une des affirmations de la modernité québécoise en littérature quand apparaît Bonheur d'occasion en 1945. Alors donc, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est mis à réfléchir sur sa vie. Et ses mémoires nous révèlent une trajectoire de vie qui est relativement inusitée dans le contexte et qui permet de connaître une figure littéraire importante. Est-ce que ça va demeurer plus que Bonheur d'occasion? Ça, je le sais pas. Mais certainement que pour qui a fréquenté un peu l'univers littéraire de Gabriel Leroy, ça devient très intéressant de lire sa réflexion, sa trajectoire de vie. Maintenant, vous savez, les mémoires, c'est toujours très compliqué parce que quand on ouvre la première page du premier des trois tomes des mémoires de Georges-Émile Lapalme, il commence en disant « Tous les mémoires sont faux. On ne peut pas tout dire et la fausseté vient aussi bien de ce que l'on tait que de ce que l'on raconte. » Alors donc, les mémoires sont à prendre avec une certaine précaution. D'ailleurs, je me suis employé, quand j'ai eu le bonheur d'être libéré la première fois de ma vie du rectorat du CAM, je me suis employé à écrire un petit livre qui m'a donné à moi beaucoup de plaisir, je ne sais pas si c'est la même chose pour les lecteurs, qui s'intitule « La mémoire du cours classique », où j'ai essayé, à travers un corpus d'une centaine de textes autobiographiques québécois, de voir comment des hommes québécois qui avaient... Des hommes, je ne me suis pas occupé des femmes. Des hommes québécois qui avaient fait le cours classique, qui se sont mis à le raconter, comment ils se le représentaient. Alors là, j'ai lu des mémoires, des souvenirs, des autobiographies québécoises. Et là, je me suis rendu compte que l'écriture autobiographique était extrêmement périlleuse. Moi, je ne m'y engagerais pas. Mais en ce sens, ça ne m'empêche pas de lire des mémoires avec beaucoup d'intérêt.
Bien, justement, parlons, pour terminer, de ces mémoires de Georges-Émile Lapalme que vous venez de citer. Lapalme, vous lui avez consacré une pièce de théâtre, donc c'est quelqu'un qui vous attire, qui vous intéresse. Vous l'admirez ou c'est son destin tragique qui vous fascine?
C'est un peu des deux, sans doute. Il s'adonne que... Mes parents ont fréquenté, pour des raisons de politique, Georges-Émile Lapalme, que mon père lui est demeuré très attaché après que Lapalme eut quitté le pouvoir en 1964. Donc, moi, je l'ai vu dans chez mes parents. Je l'ai entendu parler. C'était un conteur absolument remarquable. Il était absolument impossible de lui faire parler de politique. Il ne voulait jamais parler de politique sérieusement. Il ne pouvait en parler que sur le mode de l'ironie ou de l'humour, sans doute parce que la chose l'avait trop profondément blessé. Ce que je trouve intéressant chez Georges-Émile Lapalme, c'est qu'il est né dans un milieu petit bourgeois. Il a été formé dans un collège classique qui était situé à Joliette. Dans le contexte des années 20, c'est un collège classique probablement meilleur que la moyenne. au Québec. Il a suivi des cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal alors qu'elle était ici, au centre-ville. C'est, d'une certaine façon, un autodidacte. Il a découvert beaucoup de dimensions de culturelles par ses propres moyens. Il s'est laissé entraîner en politique. Et dans les années 50, il a mené une tâche très ardue qui a été de diriger le Parti libéral du Québec contre Maurice Duplessis, qui à ce moment-là dominait de façon écrasante la vie politique du Québec. Et c'est quelqu'un qui a été très impressionné par l'idée de la culture comme étant un objet privilégié de l'action politique. Il est très fascinant d'observer quand on lit le programme du Parti libéral de 1960, l'article 1 du programme du Parti libéral de 1960, c'est la création d'un ministère des Affaires culturelles en 1960. C'est pas rien, ça. Alors, c'était une idée de La Palme. D'ailleurs, le ministère des Affaires culturelles, à l'époque, on l'appelait la bébelle à La Palme. alors, moi, ce que je trouve intéressant chez La Palme, c'est que c'est quelqu'un qui a mené une carrière politique dans l'adversité. Mais c'est quelqu'un aussi qui a été, je pense, une espèce de creuset qui a su ramasser, à la fin des années 50, beaucoup d'idées qui flottaient dans l'air au Québec, d'idées de réforme, de réforme, de réorganisation du Québec et de les intégrer de manière à ce que ça devienne le programme d'un parti politique. Par ailleurs, c'était un homme avec qui il était particulièrement intéressant de parler de littérature. Il s'y connaissait beaucoup. Alors, moi, je trouve que c'est un personnage intéressant. On a reconnu, d'ailleurs, au cours des dernières années, sa contribution. C'est quand même lui qui a poussé à la création d'un ministère, d'abord des Affaires culturelles, qui est maintenant ministère de la Culture. Et il n'y a pas tellement de Québécois qui furent des commensaux, si vous me permettez ce terme un peu recherché, d'André Malraux. Malraux est venu au Québec en visite officielle. André Malraux, le grand écrivain, le ministre de Gaulle, est venu au Québec en voyage officiel à l'automne 1963. C'est La Palme qui lui a servi de guide. Et par la suite, même après que La Palme eut démissionné, il a gardé des liens avec Malraux. Donc, je te dis, c'est un personnage québécois assez fascinant que Georges-Émile La Palme. Et en plus, il a écrit une œuvre, ses mémoires en trois tomes, publiées à la fin des années 60, début des années 70. Alors, on peut observer certaines choses à propos des mémoires. La première, c'est que c'est lui qui les a écrits, alors que d'autres hommes politiques ont engagé ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si on peut encore dire ça, des nègres littéraires.
On dit maintenant des ghostwriters.
Des ghostwriters, bon. Alors, donc, il les a écrits lui-même, ses mémoires, et on y voit la capacité, une recherche d'une écriture de qualité, et on y voit une grande capacité à décrire, à faire des portraits, au sens de la tradition littéraire française, en particulier du portrait moral de certains individus. Et il nous décrit Duplessis d'une façon extrêmement riche, détaillée. Il y a une réflexion aussi où il y a encore, je pense, beaucoup d'amertume chez lui, une réflexion sur ce que c'est que l'action politique. Alors, en ce sens-là, moi, je trouve que ses mémoires méritent d'être lues, au moins pour la connaissance de l'époque, mais parce que c'est une œuvre qui a, je pense, statut d'œuvre littéraire, et c'est une œuvre qui est l'objet témoigne d'une recherche de l'écriture et de la formulation qui est assez remarquable.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
On sera même peut-être coupé au montage, qui sait. Mais M. Corbeau...
C'est pas douloureux, ça, être coupé
c'est
au montage?
Très peu. Ah, bon. Très peu. En général, on n'y est pas. Et donc, merci. Merci de votre présence. Merci d'avoir partagé avec nous ces passions, autant de politologue que d'amateur de littérature. Et encore une fois, à une prochaine.
Merci.
Bonsoir.
Merci. 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 Merci.
Alors, nous avons le temps pour, bien sûr, quelques questions. Malheureusement, vous n'aurez pas le plaisir de vous voir à l'écran puisque cette partie-là de nos entretiens n'est pas rediffusée, mais vous pouvez quand même poser des questions, monsieur. Et si vous voulez vous identifier, c'est toujours plus agréable.
Bonsoir, je suis Yves Bourguignon. Merci à vous deux pour cette présentation fort intéressante. Monsieur Corbeau, on a survolé le sujet, mais on a une petite annonce à votre bénéfice. Vous serez de retour ici dans 3 semaines pour la lecture d'un nouveau texte qui s'appelle justement « Le désenchantement du ministre Lapalme ». Qui a écrit, on le sait, le programme du Parti libéral des années 60, Maître chez nous et tout ça, et qui a donc contribué à la Révolution tranquille. On parlait tantôt de Machiavel, des ondes d'ombre dans le pouvoir. On parlait de Saint-Augustin qui nous brasse, qui nous secoue. Si quelqu'un s'ambitionnait aujourd'hui de faire un Georges-Émile Lapalme de lui-même, de préparer une deuxième révolution de laquelle Montréal et le Québec ont peut-être besoin, qu'est-ce que vous auriez tendance à suggérer comme lecture pour que donc cette personne-là s'inspire bien la première révolution tranquille, et pour éviter autant que possible les désenchantements que M. Lapalme a connus par la suite?
Bon, c'est une bien bonne question, n'est-ce pas?
C'est bien aimable.
Mais parfois, je l'inviterais peut-être à lire quelque chose comme les mémoires du général de Gaulle, les mémoires de guerre, précisément pour méditer sur les exigences, les limites de l'action politique, sur l'importance d'avoir un certain nombre d'idées, je dirais pas des idées fixes, mais des priorités, une manière d'étoile polaire pour nous guider. Réfléchir sur le sens de l'action que l'on veut mener et être capable de la mener sans trop s'illusionner, parce que la réalité est toujours très résistante. Le changement est possible, mais ça ne donne jamais exactement ce que l'on peut espérer. Peut-être qu'il devrait lire aussi les confessions de Saint-Augustin, histoire de ne pas se faire trop d'illusions à propos du comportement des êtres humains.
Et si on vous poussait dans votre dernier retranchement et qu'on exigeait de vous quelque chose qui irait plus du côté du positif ou de l'optimisme par rapport à tout ça? Quelque chose qui pourrait être d'ailleurs soutenant ou inspirant pour des gens qui souhaiteraient aller dans cette direction-là, parce qu'on peut penser que Montréal et le Québec ont besoin d'un virage assez substantiel.
Écoutez, je pense que si on lit un ouvrage comme les mémoires de Georges-Émile Lapalme, on comprend la capacité de changer des choses, même si on n'atteint jamais l'objectif que l'on recherche. Mais cela étant, vous savez, tant d'autres lectures peuvent être profitables, ça dépend de la chimie qui se produit dans l'esprit d'une personne en fonction des textes, des œuvres qu'elle lit.
Ça nous aura fait infiniment plaisir que vous référiez à celle-là. Merci beaucoup.
Merci.
Monsieur?
George Doramadjan, je suis diplômé de McGill. J'étais là pour présentation de M. Navon dans Pavillon Aquin. Après, je devrais dire qu'on devrait avoir meilleure discussion et ça pas bien aller parce que les gens ne restent pas dans la salle, ils font des commentaires et ils sortent trop tôt. Alors je leur dirais après faire les commentaires, rester pour que les gens puissent répondre. Monsieur Navon n'avait pas la chance de répondre, mais laissant ça, j'ai monté après, on voit le bel toit de l'UQAM et c'est une très belle université. J'ai 3 questions vite. Pourquoi quand on sort d'une famille, on a tellement de choses à repayer et quand on sort d'une université, on a tellement de choses à repayer? Ça, c'est question 1. 2, très vite, c'est grand sujet. Dans la succession des cardinaux catholiques à New York, M. Dolan n'est pas un cardinal parce que son prédécesseur n'est pas encore 80 ans. Et il y a cette chose de cardinal émérite, mais je trouve que cette succession de cardinal est très beau. Mais en Angleterre, la succession des rois, je trouve que c'est pas bon. Les gens restent pour trop de générations. La reine Elisabeth, elle veut rester plus long que Victoria et ça fait tout croche avec Charles et William. Alors, comme des Canadiens, je trouve qu'ils devraient faire une meilleure succession. Ça, c'est deuxième question. Troisième.
C'est pour ça que Winston Churchill disait la démocratie, c'est le pire des régimes politiques, mais à l'exclusion de tous les autres.
Oui. J'aime ça. J'ai des anecdotes pour Churchill et De Gaulle, mais on n'a pas le temps. Troisième question. Qu'est-ce que vous pensez de cette alliance qui se forme entre Chine et Pakistan? anti-américain, anti-indien.
Monsieur, vous posez des questions qui dépassent largement mes compétences pour y répondre. Je regrette, je peux pas intervenir là-dessus, mais puisque vous avez parlé de Churchill, à chaque fois que je me lépine dans une librairie ou dans une bibliothèque, me revient toujours ce propos de Churchill qui, un jour, allant visiter un magasin d'alcool en France, en voyant de très beaux cognacs, se disait « tant de beaux cognacs et si peu de temps pour les boire, alors, tant de beaux livres et si peu de temps pour les lire ».
Merci. Vous cédez la place.
Gilbert Levesque, en passant, Churchill était aussi un aquarelliste avant d'être un écrivain.
Oui, et il a même écrit un livre sur l'art de l'aquarelle.
Extraordinaire à lire. Écoutez, j'ai du bonheur à vous croiser, tous les deux, M. Bertiom et vous. Je vais vous dire ceci que, bon, par ma référence personnelle, face à la francophonie, j'ai eu un jour le désir très, très, très fixe de rencontrer Julien Green et Marcel Arlan. J'ai eu le bonheur de rencontrer les deux. Et dans mon journal intime, à un moment donné, j'avais écrit « Les êtres passent, les monuments restent ». Monsieur Corbeau, vous êtes un être, un monument vivant, d'autant plus que vous avez su aimer cette population qui est la nôtre. Merci.
Vous êtes bien gentil, alors plaisir. C'est bien gentil de me considérer comme un monument vivant. Alors ça va peut-être, non, mais ça va peut-être procurer à ma succession le bénéfice de ne pas avoir à m'ériger un monument après ma mort.
Alors, une dernière question, monsieur. Vous vous nommez?
Bonjour, je m'appelle William Svenseka. Je suis étudiant à l'UQAM, justement. Donc, vos choix littéraires illustrent souvent des transformations inévitables au domaine politique de notre histoire. Moi, je me demande, vous, en tant que Claude Corbeau, êtes-vous l'observateur d'une transformation majeure au Québec? Si oui, lesquelles?
Écoutez, vous me posez une question qui se situe d'abord clairement en dehors de la littérature ou de la lecture. Que puis-je vous dire d'autre? Moi, je suis... J'ai passé plus de 40 ans de ma vie à essayer de construire l'Université du Québec à Montréal. Alors, c'est une petite contribution à l'évolution d'une société. J'en tire une certaine satisfaction. Il s'agit de saisir les occasions qui nous sont données de contribuer à améliorer la situation de ses concitoyens.
Merci.
Merci beaucoup.
Non, mais il y a une question.
Oui.
Excusez-moi, merci beaucoup, Monsieur Corbeau. C'était très intéressant. Je m'appelle Fanny Saint-Laurent. Je suis de l'Université de Sherbrooke. J'avais communiqué avec vous l'année dernière à propos de votre mère, dont vous avez parlé rapidement, Mignonne Côté Corbeau, qui faisait partie du cercle récamier, qui a fait également partie de la Société d'études et de conférences. Je me demandais rapidement ce que vous avez légué votre mère. Est-ce que dans votre bibliothèque, il y a des traces de cette forme de sociabilité féminine auquel elle avait participé, à laquelle elle avait participé.
Je dois dire que si j'ai contracté le goût de la lecture, c'est probablement en partie grâce à ma mère qui, quand j'étais vraiment très enfant, me faisait la lecture le soir avant de m'endormir. Alors ça passe d'une génération à l'autre. Et ma mère a eu le privilège, à 17 ou 18 ans, de commencer à travailler pour un personnage qui s'appelait Edouard Zotique Massicotte, qui était le responsable des archives judiciaires du Québec à Montréal, mais qui avait fréquenté Émile Nelligan, entre autres, et qui a été lui-même auteur de plusieurs livres. Alors donc, je pense que c'est l'influence de ma mère m'a vraiment donné le goût de lire. Et ma mère avait une sœur, qui était infirmière de son état, la tante Rita était née en 1912, je pense, ma mère en 1909, et elle est devenue infirmière au début des années 30. Elle a travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque les dispensaires de la ville de Montréal. Elle a travaillé longtemps à l'hôpital Saint-Luc, qui était l'hôpital de ce qu'on appelait à l'époque le Red Light. Je ne sais pas si ça se dit encore aujourd'hui. Alors elle, ma tante Rita, était aussi une grande lectrice. Mais son intérêt particulier, c'était la littérature, comment dirais-je, érotique et pornographique. Elle réussit à se procurer des choses sous le manteau à Montréal, mais malheureusement, quand elle est morte, sa bibliothèque est disparue. Je n'ai jamais pu mettre la main là-dessus. Mais elle m'avait parlé de l'amant d'Edith Chatterley, Alors donc, mais les femmes de cette époque avaient, je pense, peut-être plus que les hommes, en tout cas dans certains milieux, un intérêt pour la littérature. Il y avait déjà des femmes écrivaines dans les années 20, les années 30. Et il y avait ces cercles où les femmes, effectivement, lisaient ensemble ou s'échangeaient des commentaires. Et ça crée un milieu, ça développe une tradition. Et c'est pas, ma mère n'est pas la seule femme de sa génération qui a eu plus d'intérêt pour la littérature que les hommes auxquels ils étaient mariés. Alors, bon, je pense que grâce à elle, elles ont agi comme relais, comme instigatrices à la fréquentation des livres.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci à tous.
Merci. Merci.